Aujourd'hui, on va aborder l'histoire d'Abraham dans le cadre de notre étude de la lettre aux Hébreux. Nous sommes arrivés au chapitre 11. Si vous vous souvenez, on a dit que la lettre aux Hébreux, on n'est pas sûr de l'auteur, à part le fait que c'est l'Esprit Saint qui l'a inspiré et qui l'a dicté à l'auteur humain. Elle s'adresse à des chrétiens d'origine juive, convertis, mais qui, devant la pression des persécutions, avaient tendance à revenir à la foi judaïque et à oublier Jésus-Christ. Parce qu'il se disait, c'est trop de problèmes, c'est trop de travail, c'est trop dangereux. Finalement, ce qu'on connaissait, c'était pas mal. Une bonne religion, on pratiquait, on savait si on avait fait ce qu'il fallait. Et l'auteur fait tout ce qu'il peut pour leur montrer qu'il n'y a rien de plus grand, rien de plus beau, rien de plus digne de notre confiance et de notre consécration que Jésus-Christ. Et aujourd'hui encore, c'est quelque chose qu'on oublie quand on est chrétien. On est tellement gâté, dans le sens qu'on est tellement béni de connaître Jésus-Christ que des fois on oublie combien il est spécial, combien il est merveilleux. Et l'auteur veut nous rappeler en quoi Jésus est supérieur à tout ce que l'on peut imaginer. Il est supérieur aux prophètes, il est supérieur aux anges, il est supérieur à tous les grands prêtres. Il est notre grand prêtre. Il est entré dans les cieux. Il a un ministère qui est infiniment supérieur au ministère des souverains sacrificateurs, les souverains grands prêtres. Et il parle de la foi. Il veut montrer à ces juifs que tous les personnages de la parole qu'ils vénèrent, pour lesquels ils avaient le plus grand respect, en fait, eux aussi, c'est en Jésus-Christ qu'ils avaient foi. Il leur montre que c'était des héros de la foi. Il parle de la foi. On a vu qu'au chapitre 11, c'est le grand chapitre de la foi qui nous explique que la foi, elle est d'abord décrite comme la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça peut être des fois un peu hermétique, cette définition, quand on la lit pour la première fois, on l'a étudiée. Donc je vous renvoie à l'étude que l'on a faite sur cette description de la foi. Ce n'est pas vraiment une définition, mais ça renvoie à quelque chose qu'on ne voit pas, mais dont on est sûr et qui nous motive. Une bonne définition que vous pouvez noter, la foi, c'est une réponse positive à une révélation divine. Il a pris les exemples des patriarches, des premiers hommes qui ont eu la foi. Le premier, c'était Abel. Ses parents, Adam et Ève, eux, voyaient marcher avec Dieu, donc ils n'avaient pas à faire usage de la foi dans ce sens-là. Mais Abel a offert un sacrifice par la foi. Il avait entendu dire, d'après le texte et le contexte, on pense qu'il avait réalisé que pour venir à Dieu, il fallait venir par le sang. Et il avait donc offert un sacrifice d'un agneau de son élevage qui avait été bien reçu par Dieu, alors que son frère Caïn, lui, avait offert à sa façon un sacrifice qu'il avait trouvé suffisant, mais ce n'était pas selon la révélation divine. Il n'avait pas exercé la foi. Hénoc, c'est un autre personnage qui, lui, marchait avec Dieu tout le temps. Il avait une telle intimité qu'il est, à un moment donné, Dieu lui a dit « Mais viens avec moi ». Et il est allé à Dieu sans passer par la mort. Et puis Noé, vous connaissez son histoire avec son fameuse arche de Noé. On aime bien l'histoire et tous les produits dérivés, les petits bateaux qu'on peut faire avec des animaux, etc. Mais on oublie que Dieu lui a demandé de construire un bateau alors qu'il n'avait jamais plu à la surface de la terre. Les commentateurs pensent qu'à l'époque, la terre était protégée par une canopée, une sphère qui encadrait la terre, une sphère où se trouvait de l'eau qui arrêtait les rayons cosmiques qui causent le vieillissement de l'homme. C'est pour ça qu'on pense que c'était vraiment authentique. Il y avait des personnages qui vivaient plus de 900 ans, mais aujourd'hui, on n'a plus cette protection. Le déluge est arrivé et l'eau est venue sur la terre. Ça lui a pris 120 ans pour construire cette arche. 120 ans et il a dû subir tous les blagues, les colibés de ses contemporains. Et puis un jour, le déluge est arrivé et si on n'était pas à l'intérieur de l'arche, on périssait. Ce que j'aime beaucoup dans la Bible, lorsqu'on étudie l'Ancien Testament et qu'on compare avec le Nouveau Testament, c'est qu'il y a des préfigurations de Christ très puissantes. L'arche de Noé est une préfiguration de Christ lui-même. Si nous ne sommes pas en Christ aujourd'hui, nous allons périr. Et Dieu est patient, il veut que tous les hommes viennent à la connaissance de la foi et de la repentance en lui pour être sauvés, mais il arrive un moment où il sera trop tard. Et l'histoire de l'arche nous le montre très bien, il est arrivé un moment où c'était trop tard, les gens qui n'étaient pas à l'intérieur ont péri. Mais on arrive au plus grand des personnages de la culture juive de l'époque et d'aujourd'hui encore, le fameux Abraham. Abraham, le père des croyants, il est à l'origine de toutes les religions monothéistes, même l'islam, la foi juive et la foi chrétienne, se réclament de lui. Il est vraiment un exemple vivant. On peut penser qu'étudier un patriarche qui a vécu il y a plus de 4000 ans, c'est pas très édifiant, c'est même un peu rébarbatif. Mais si vous savez que la parole de Dieu est inspirée par Dieu, vous venez à elle plein d'attentes. Et je vous invite à venir entendre parler d'Abraham avec des attentes, pas pour vos connaissances bibliques, mais pour votre foi personnelle. Je ferai un témoignage un peu plus tard, si je n'oublie pas. Il a beaucoup marqué ma vie. Si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à l'exemple d'Abraham. Et peut-être qu'il y en a parmi vous aussi qui l'ont suivi comme exemple. Exemple de foi. Et c'est vrai que la foi, c'est pour les non-croyants, c'est quelque chose d'incompréhensible. Au mieux, ils nous pensent être de doux illuminés. Il a des croyances un peu bizarres, mais il est gentil, il ne fait pas de mal, il est même plutôt sympathique. Mais l'idée de croire en un Dieu qu'on ne voit pas, ça les dépasse complètement. Il y a un pasteur chrétien américain qui vit toujours, qui disait « Le chrétien vit par la foi. Nous fondons nos vies sur ce que nous n'avons jamais vu. Nous n'avons jamais vu Dieu, nous n'avons jamais vu Jésus, nous n'avons jamais vu le Saint-Esprit, nous n'avons jamais vu le paradis céleste, nous n'avons jamais vu l'enfer, nous n'avons jamais vu les individus qui sont décrits dans la Bible, ceux qui l'ont écrite. Nous n'avons jamais vu un manuscrit original de la Bible. Nous n'avons jamais vu même les grâces que Dieu dit répandre sur nous, puisqu'elles ne sont pas tangibles, qu'on ne peut pas les toucher, ou visibles par l'œil humain. Cependant, nous tablons non seulement notre vie présente, mais notre destinée éternelle sur ces choses que nous n'avons jamais vues. C'est ainsi qu'un chrétien vit. Bref, ça a l'air complètement fou. La Bible nous dit que sans la foi, il est pourtant impossible de plaire à Dieu et que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Cette foi, comment est-ce qu'on peut la vivre concrètement ? On a l'impression qu'il faut être fou pour la vivre. Mais on a vu que la foi, c'est au monde spirituel ce que la vue est au monde physique. La foi, elle nous permet d'appréhender des choses réelles, mais que nous ne voyons pas par les yeux physiques. Et ce qui est important, comme pour la vue physique, c'est de réaliser que ce n'est pas parce que je les vois ou je ne les vois pas que ces choses ne sont pas. Si j'emmène un aveugle sur la promenade des Anglais et que je lui dis « Regarde ce soleil qui scintille sur la mer bleue, turquoise et bleu marine foncé », il va dire « Désolé, mais je ne vois pas ». Peu importe qu'il voit ou qu'il ne voit pas, la beauté, la mer, les couleurs sont là. Et de la même façon que l'homme voit Dieu ou qu'il ne le voit pas, Dieu est. Dieu existe et il nous aime. Il nous a donné des éléments. Il y a d'abord le témoignage de l'Esprit-Saint qui nous dit que nous sommes des enfants de Dieu, que nous lui appartenons. Et puis il a donné toute sa parole. La foi, elle vient de la parole de Christ, Romains 10, 17. Et la parole de Christ vient de Christ. Sans la Bible, vous pouvez avoir toute la foi que vous voulez en Dieu, ça ne sera pas la foi dans le véritable Dieu. Ça sera un figment de votre imagination, une création, quelque chose que vous aurez imaginé. Qu'est-ce que je ferais si j'étais Dieu ? Je donnerais un salaire à tout le monde sans qu'ils aient besoin de travailler. Bien que personne ne travaille, il y aurait des choses à acheter. On peut faire son Dieu comme on le veut, et nous le faisons tous plus ou moins. C'est seulement quand on revient à la parole et à la connaissance qu'elle nous donne de Dieu que nous pouvons vraiment l'adorer en esprit et en vérité. C'est parce que la vie d'Abraham a été caractérisée par la foi vécue concrètement que la Bible parle de lui comme étant l'ami de Dieu. Jacques 2, 23. Jésus nous a dit qu'il nous appelait ses amis. C'est incroyable d'être appelé ami de Dieu, ami de Jésus. Lorsque quelqu'un parle de nous en disant « c'est mon ami », quelque part ça fait du bien, il y a une relation d'intimité qui est réaffirmée. La Genèse 15, 6, il est dit « Abraham crut en l'Éternel qui le lui compta comme justice ». C'est-à-dire que Abraham a été décrit, ça voulait dire père grand, Ab le papa, Abraham le grand, un grand père, pas un papy, mais un père plein de grandeur. Il est devenu Abraham avec un H, père d'une multitude. Et il est dit que lorsqu'il a cru Dieu, Dieu lui a compté comme justice. Il l'a déclaré juste sur la base de sa foi. Et aujourd'hui encore, on est accepté par Dieu. On est reconnu comme étant digne de vivre avec lui pour l'éternité, dans l'intimité, dans la joie, dans la transparence, dans l'épanouissement ultime pour l'éternité, seulement si on vient à lui par la foi et par la foi en le sacrifice que Jésus-Christ a donné. Jésus-Christ qui s'est donné, qui a versé le sang, ça nous rappelle que Abel prophétisait par ce sacrifice qui était accepté par Dieu, le sacrifice de Jésus-Christ. Mais on va lire à partir du verset 8 au verset 19. Passage très riche, passage très... On va passer quelques dizaines de minutes à le commenter. On pourrait en écrire des livres là-dessus. Je lis dans la version second 21, à partir du verset 8. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses et que Dieu lui ait dit « C'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée ». Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Remettons brièvement cette étude au Seigneur encore. Seigneur, ce texte est monumental et je te demande ton aide pour que nous puissions, par l'aide de ton esprit, en saisir les principes que tu veux que nous saisissions aujourd'hui, en 2017, à Nice, en ce jour de la fête des mères, Seigneur. Merci de parler à nos cœurs et de transformer nos vies. Amen. Abraham, il est dit, c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé. et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Tout ça, ça fait référence au début de la Bible, au passage que l'on trouve dans la Genèse, les chapitres 12 à 18 même. Il est dit, et c'est ce qu'on appelle des fois l'appel d'Abraham, il habitait dans une ville qui est un grand favori des gens qui jouent aux mots croisés, Ur, en Chaldée. C'est la région qui correspond à l'Irak aujourd'hui. On peut même lire verset 27, « Voici la lignée de Térakh. Térakh eut pour fils Abraham, Nachor et Haran. Haran eut Lot. Haran mourut du vivant de son père Térakh dans le pays de sa naissance à Ur en Chaldée. Abraham et Nahor se marièrent. La femme d'après d'Abraham s'appelait Sarai, qui veut dire princesse. Et la femme de Nahor, Milca. Elle était la fille d'Haran, qui était le père de Milca et de Jiska. Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Térakh prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Haran, et sa belle-fille Sarai, la femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan, mais arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Térakh vécut 205 ans, puis il mourut à Charan. Donc on voit d'où vient Abraham. Il vient d'un monde païen. Son propre père, il y dit par ailleurs dans Josué, c'était un idolâtre. Ils avaient plusieurs dieux représentés par des statuettes. Il leur vouait un culte. Mais à un moment donné, cet homme, avec sa famille, quitte Ur pour se rendre dans le pays de Canaan, le pays d'Israël aujourd'hui. Mais il est dit qu'ils s'arrêtèrent en route et ils s'y installent. Et puis, au verset 1 du chapitre 12, l'aventure commence. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta cette ville de Charan. Il prit sa femme Sarai et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à Charan. Ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent. Dans le texte de Hébreux 11, il est dit que c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. La construction grammaticale de cette phrase du verset 8, dans la version, donc c'était écrit en grec, Il est clair que ça a été une obéissance instantanée. Il était en train d'être appelé par Dieu et il a obéi. Aujourd'hui, on dirait, je vais aller voir sur Google, qu'est-ce que c'est que ce pays de Canaan ? Je vais voir quel est le climat, quelles sont les conditions politiques, la sécurité, etc. Non. Dieu lui a parlé, et dans une grande soumission à Dieu, il n'a même pas hésité, il est parti. Dieu lui avait fait une promesse, il a cru à cette promesse. Bien qu'il ait 75 ans, il lui avait promis d'être le père d'une multitude de nations, de personnes. À 75 ans, il n'avait toujours pas d'enfant. Sa femme était déjà âgée, elle avait 10 ans de moins que lui, et elle n'avait pas d'enfant. Elle avait même passé l'âge d'avoir des enfants. Mais Dieu parle à Abraham et il part partir sans savoir où il allait. La foi, c'est une réponse positive à une révélation divine qui conduit à une obéissance instantanée. Alors, ça peut rester de la foi, même si ce n'est pas instantané. Ce verset, partir sans savoir où il allait, obéir par la foi, c'est quelque chose qui m'a touché. Et d'emblée, je ne veux surtout pas que vous pensiez que je me mets comme un exemple d'un homme de grande foi. J'ai une petite foi dans un grand Dieu. Mais lorsque j'ai commencé à me demander si Dieu voulait que je quitte ma vie aux États-Unis, c'était pas évident. J'avais tout pour être heureux là-bas. Ma femme, mes deux enfants, qui étaient tout mignons, ils le sont toujours. Un super job dans l'informatique avec les techniques dernier cri. J'aimais beaucoup mon travail, mais j'étais devenu chrétien. On m'avait invité dans une église. Ça peut être dangereux, je vous préviens. Et d'emblée, j'avais su que ce que la Bible disait, c'était la vérité. J'avais jamais entendu la Bible exposée de façon concrète, de façon pratique, de façon qui faisait sens dans ma vie. Et ça m'a scotché. On nous a invités une fois, mais le dimanche d'après, Nancy et moi, on a dit, on y retourne ou pas? Et on y est retourné. Tonio était tout petit, il avait 6 mois. Et on n'a pas cessé de venir apprendre des choses sur Dieu. Et puis arrivé un moment, le Seigneur, puisque je pense que c'est lui qui a commencé à mettre dans mon cœur l'idée que je rentre en France, où j'avais encore un peu de famille, ma mère et une sœur, et deux sœurs encore, et que je puisse m'investir pour partager l'évangile que j'avais reçu. J'avais été élevé catholique en France, mais il n'y avait pas eu une réalité, il n'y avait pas eu le déclic avec la réalité de Jésus-Christ, Dieu, souverain, Fils de Dieu, du Saint-Esprit, du Père. Et quand j'ai commencé à avoir ce désir, ça voulait dire qu'il fallait quitter ma sécurité et suivre Dieu par la foi. J'avais pas d'exemple de personne que je connaissais qui avait fait ça de façon pratique à l'époque. Et puis un jour, ce qui est remarquable aux États-Unis, c'est que les radios chrétiennes sont très répandues. Dans votre voiture, vous cherchez une station pour écouter quelque chose et pof, vous tombez sur une station où la parole de Dieu est explicitée, où un passage est expliqué. Et à ce moment-là, quand je me disais, mais c'est fou, j'avais près de 40 ans à l'époque, je me disais, partir comme ça à l'aventure alors que j'ai une famille, que j'ai une situation, comme on dit, une bonne situation, dont ma maman était très fière. Ah oui, mon fils a une belle situation aux États-Unis. Et revenir sans savoir ce que j'allais faire, comment j'allais vivre en France, ça paraissait être de la folie. Et ma famille, qui était complètement opposée à cette idée, beaucoup d'amis me disaient « Mais ça ne va pas la tête, qu'est-ce que tu vas faire ?» Et puis cette radio, ce sermon, et le pasteur qui prêchait, qui disait « Peut-être parmi vous, ceux qui m'entendent, il y en a qui sont travaillés par l'idée de ce qu'ils veulent faire quelque chose pour Dieu, ils veulent prendre une décision un peu radicale, ils veulent partir quelque part pour être missionnaire, ou ils veulent partir faire des études pour peut-être devenir pasteur. Ou... C'est quelque chose que vous n'arrivez pas à mettre de côté, et c'était mon cas. C'est quelque chose que vous ne... auquel vous pensez tout le temps. C'était mon cas. Et la conclusion du passage, de l'enseignement de ce pasteur, il disait, mais vous ne saurez jamais si c'est vraiment ce que Dieu veut pour votre vie, si vous ne vous lancez pas, si vous ne le faites pas. Et puis il avait cette remarque, et c'est une remarque pour vous tous qui peut-être avez être travaillé par l'idée de travailler d'une façon ou d'une autre pour le Seigneur à temps plein, à temps partiel, mais peut-être plus qu'en étant simplement un chrétien qui vient à l'église, mais que vous sentez que le Seigneur veut vous utiliser. Il disait, est-ce que vous voulez arriver à l'âge de la retraite, à 70, 80, 90 ans, en vous demandant qu'est-ce qui aurait pu se passer si j'avais obéi à ce que je pensais être la voix de Dieu? Et pour moi, ça a été en anglais on dit le clincher, ça a été la clé. J'ai dit, c'est vrai, je veux pas vivre toute ma vie en ayant peur, en préférant la sécurité, et puis pour un jour dire... Ouais, j'ai une vie matérielle bien, même spirituellement. On avait une très bonne église, on était impliqués, on pouvait soutenir des missionnaires. Est-ce que je veux prendre ce risque avec Dieu? Est-ce que je veux? Et il parlait de ce verset. Il disait, Abraham, il est parti sans savoir où il allait. Alors je savais, à l'époque, je savais qu'on voulait revenir sur Nice. On avait un pasteur qui nous avait invités à venir le remplacer pendant quelque temps. Mais une chose est sûre, quoi qu'il advienne, le Seigneur a béni, ça a été très lent. Il y a eu des moments d'exaltation, des moments de profond découragement. Au début, on touchait essentiellement des étudiants. Et à chaque rentrée scolaire, c'était la déprime, parce qu'il fallait repartir pratiquement à zéro. Beaucoup des étudiants partaient, suivaient leurs études ailleurs, etc. Et puis, Dieu nous a aidés. Il a amené des familles dans l'église. Les familles, ça amène la stabilité, les étudiants, ça amène l'enthousiasme. Mais il faut les deux pour avoir une église vibrante. Et donc, ce verset, alors je ne me suis jamais pris pour Abraham, je vous rassure tout de suite, mais ce qui s'appelle Abraham, c'était un homme comme les autres. On n'aura peut-être pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais sa foi était loin d'être parfaite. Il a eu des chutes de foi. Il a même menti pour se protéger parce qu'il avait peur, alors que Dieu l'avait assuré de sa protection. Mais il est parti sans savoir où il allait. Et donc ces quelques phrases, ces quelques paroles, ça peut toucher votre vie au plus profond. Pour moi, c'est... S'il n'y avait pas cette phrase, partir sans savoir où on va, nous ne serions pas là. Alors vous seriez sans doute ailleurs, Dieu merci, je n'étais pas indispensable. Mais il peut bénir, et sans la foi, il est impossible de lui plaire. Et ce que je vais vous dire, c'est que la foi qui n'est pas immédiate, l'obéissance qui n'est pas immédiate, c'est l'aventure qui est retardée. J'ai traîné des pattes. J'ai pris mon temps lorsque j'ai pensé vraiment que le Seigneur voulait que je parte. J'ai essayé de raisonner avec lui en disant « Mais c'est pas possible, tu aurais pris quelqu'un de plus jeune. » J'avais déjà 40 ans, vous imaginez le vieil âge que j'avais ? Ça c'est pour les jeunes de moins de 40 ans. Pour nous qui avons plus de 60 ans, 40 ans c'était le bon temps. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle peut transformer votre vie. Mais avançons un peu. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis, comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi que ses enfants, Isaac, et les enfants d'Isaac, Jacob, puis il y a eu Ésaü, les cohéritiers de la même promesse. Il est parti, il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont le Dieu est l'architecte et le constructeur. La foi et l'obéissance vont toujours de pair. La vérité de votre foi, elle se montre par votre obéissance. Et votre obéissance, elle est possible seulement si vous avez la foi. Croire, mais ne pas obéir, ça revient à renier votre foi. Obéir sans croire en Dieu, ça veut dire qu'on obéit à un autre principe qui n'a rien à voir avec Dieu. Dieu avait donc promis cette fameuse terre promise à Abraham. Et il a obéi. Il a pris des risques pour Dieu. Aujourd'hui, c'est la finale ou le jour final, la journée des récompenses au Festival de Cannes. Et si l'industrie du cinéma est si populaire, c'est parce qu'on aime bien vivre les risques à travers les autres. James Bond, Roger Moore est mort. On vit par procuration. On vit du risque par procuration. Nos vies basées sur la sécurité, ce qui n'est pas quelque chose de mauvais, elles sont étriquées. On n'ose pas rêver. Notre Dieu est trop petit. Si Dieu est qui il dit être et qui vous met quelque chose à cœur, alors vous prenez votre temps pour, dans la prière, par le conseil d'autres personnes, vous assurer que ce n'est pas vous qui êtes parti sur la lune tout seul, mais faites-le pour lui. Et je ne sais pas où vous en êtes dans votre démarche de foi avec Dieu, mais je sais qu'on a tendance à être du côté du manque de foi, à limiter Dieu. Dieu ne nous donne pas tous les détails. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ah ça, je peux. Je suis fatigué, je suis chargé, oui. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mon joug est aisé, mon fardeau est léger. Il ne nous donne pas tous les détails. Quand je suis venu ici, je ne savais pas quelle allait être notre vie, si on allait avoir des ressources. Il fallait vivre par la foi, entre guillemets, c'est-à-dire que c'était grâce aux dons d'amis et d'églises qui nous soutenaient financièrement qu'on pouvait aller demander à louer un appartement sans avoir de feuille de paix. Peu importe si c'est Dieu qui vous appelle et que vous lui faites confiance. Mon expérience de vie, c'est qu'on peut lui faire entièrement confiance. Alors il ne s'agit pas de prendre des risques insensés dans le but de voir comment Dieu va vous secourir de situations impossibles. Mais si vous avez tendance à être plutôt du genre prudent et du genre de manque de foi, faites comme Abraham, partez sans savoir où vous allez. Alors on peut avoir une idée de l'endroit, il savait que c'était, mais il n'avait jamais vécu là. Il est dit, verset 10, « Il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il quittait la ville de Charan, après avoir quitté la ville d'Our ou d'Ur. Il ne savait pas ce qu'il y avait en Canaan, en terre promise. Mais il attendait la cité que Dieu prépare. » Il attendait. Est-ce que vous aimez attendre ? Je serais surpris, dans notre société où tout est fait pour avoir tout de façon instantanée, la rapidité de nos téléphones, de nos ordinateurs, tout ça, c'est des arguments de vente. On n'a plus à attendre que la machine rame, on a une réponse instantanée. Mais on parle déjà de l'iPhone 9, qui va être encore plus rapide que l'iPhone 8, qui n'est pas encore sorti, plus rapide que nos anciens iPhones. On n'aime pas attendre. Il faut de la patience. Ces versets 9 et 10, on pourrait les intituler « La patience de la foi ». Pourquoi est-ce qu'on peut être patient ? Parce qu'on a une autre perspective, une perspective spirituelle. Si vous êtes impatient quand vous attendez à Leader Price, il y a une seule caisse et une queue qui va jusqu'aux cacahuètes, à l'arrière, et vous voyez deux autres personnes avec le même uniforme qui disent « Ah non, on est fermé. » Soit vous pouvez péter les plombs, soit vous pouvez prier. Seigneur, tous ces gens qui ne te connaissent pas, fais qu'ils puissent te rencontrer, fais que mon témoignage puisse, que je puisse leur parler, qu'ils me demandent pourquoi je suis calme alors qu'eux sont en train de trépigner d'impatience. Il était patient parce qu'il s'attendait au ciel, il savait en ce sens où il allait. Il n'était pas à se dire « c'est pas possible », il avait cette promesse de Dieu qu'il gardait comme un trésor dans son cœur et qui était sa source de force, sa motivation profonde. Nous les chrétiens, si nous vivons pour ce monde, nous allons être de piètres exemples. Est-ce que tout ce que je veux, c'est devenir plus riche, avoir plus de jouets que les autres, etc. Ou est-ce que je pense que l'éternité peut nous appeler d'un instant à l'autre, d'un moment à l'autre? Pour nous qui sommes plus âgés, ça peut être un AVC. Pour vous qui êtes plus jeunes, ça peut être un accident de voiture. Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer votre Créateur ? Est-ce que vous vivez avec l'idée qu'on peut avoir de belles et bonnes choses ici-bas, mais il y a une éternité merveilleuse qui nous appelle si nous venons à Dieu par Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité, la vie, et par lequel aucun chemin n'est possible jusqu'à Dieu. Cette patience de la foi. Et puis on voit l'exemple de Sarah, sa femme. Elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance malgré son âge avancé. Elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un homme, pourtant déjà marqué par la mort, qui n'était plus capable de procréer, est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareil au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut pas compter. Les hommes, si on leur dit qu'on ne peut pas compter, ils essayent de compter. Et aujourd'hui, avec les ordinateurs, certains ont estimé que le nombre des étoiles du ciel, c'est 10, suivi de 29 zéros. Ce qui est intéressant, c'est que d'autres ont compté les grains de sable à la surface de la Terre, sur toutes les plages, et ils arrivent aussi à un nombre qui est proche de 10, suivi de 29 zéros. Alors je ne sais pas si c'est le bon nombre, mais c'est pour montrer la puissance de Dieu. Un homme qui ne pouvait plus procréer, qui avec sa femme a eu seulement un enfant, Isaac. Et Isaac, ça veut dire éclat de rire. Ça veut dire parce que lorsque des anges sont venus promettre à Abraham et à sa femme que l'année suivante ils reviendraient et qu'ils auraient un enfant, elle n'a pas pu s'empêcher de trouver ça trop drôle. Elle avait passé l'âge de la ménopause. Elle disait, ils connaissent rien, ces personnes, ces promesses. Et pourtant, par la foi, elle a été rendue capable d'avoir une descendance. Alors sa foi aussi n'était pas parfaite. Vous connaissez l'épisode où elle s'est dit, oui, en fait, Dieu va avoir une descendance, qu'Abraham ait une descendance. Moi, je suis trop vieille, mais peut-être, ça se faisait à l'époque avec ma servante Agar, peut-être qu'il pourra lui donner un enfant, et c'est comme ça que Dieu va arriver à tenir sa promesse. D'Agar est descendu Ishmaël, d'Isaac est descendu Jacob, les ancêtres des Juifs et des Arabes, et le problème dure jusqu'à maintenant. Lorsqu'on essaye d'aider Dieu dans nos pensées, on dit « Dieu, c'est pas possible, mais attends, ah si, j'ai une idée. Je peux plus avoir d'enfants, mais tu m'as promis des enfants, mais ce sera par quelque chose. » Si Dieu vous parle, recevez ce qu'il vous dit comme un trésor et soyez patient. Ils ont attendu plus de 25 ans avant d'avoir cet enfant. Abraham avait 100 ans. Des fois, je plaisante avec Nancy. Elle me dit, ça ne va pas à la tête. Si un ange lui disait quelque chose de la sorte, on l'entendrait rire d'ici. Dieu est tout-puissant. La puissance de Dieu, c'est quelque chose qui nous dépasse. Notre pasteur du mouvement Calvary Chapel, Chuck Smith, disait « La difficulté d'une tâche doit être mesurée par rapport à la capacité de celui qui l'entreprend. » C'est vrai qu'on dit « ça, c'est impossible. » Ça dépend qui. Si on dit il est impossible de transformer ce bâtiment industriel en une cathédrale gothique, ça m'est impossible. Mais si le gouvernement décide qu'on va construire une cathédrale ici et qu'il embauche des gens qui ont étudié les techniques, des gens qui sont capables de le faire, ça sera fait. Dieu est tout-puissant. Y a-t-il rien qui soit trop difficile de la part de l'Éternel ? Abraham a attendu 24 ans, 25 ans, avant que la promesse se réalise. Ils étaient, verset 13, ils étaient étrangers de passage. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin. Ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers, voyageurs sur la terre, comme des immigrés, des réfugiés. Parce qu'en fait, la multitude qui avait été promise à Abraham, au bout de 100 ans, qui y avait ? Il y avait Jacob, il y avait Isaac, Jacob, Ésaü. Il n'y avait pas la foule. Ce n'était pas encore les grains de sable ou même les galets sur la plage de Nice. C'était bien loin de la réalité. Mais quelques centaines d'années plus tard, on a des millions de juifs. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Vous vous souvenez peut-être de ce beau-frère Mike et sa femme Molly qui sont venus faire une retraite parmi nous à Saint-Martin-de-Vésubie il y a 2 ans. Eux ont été missionnaires au Népal. Et ça, c'était le verset qui leur avait permis de tenir bon. S'ils avaient eu la nostalgie de revenir à Seattle, ils auraient pu le faire. Mais ils croyaient que Dieu les avait envoyés, qu'il avait une œuvre à faire au Népal avec eux. Et ils ont pu rester. Il n'a pas vu la réalisation de ses promesses, Abraham. Le seul lopin de terre qu'il ait possédé en terre promise, c'était la grotte de Macpéla, quelques dizaines de mètres carrés, où il a enterré Sarah avant d'y être lui-même enterré. Il est dit que, verset 16, il désire une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. Ils ont les yeux fixés sur la nouvelle Jérusalem, sur le ciel, sur la vie avec Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Si vous regardez dans la Bible et vous voyez le Dieu d'Abraham, comptez le nombre de fois, je ne l'ai pas fait, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça revient sans arrêt, sans arrêt. Mais il est aussi le Dieu de Nathan, il est le Dieu de Gilles, il est le Dieu de chacun de vous si vous lui faites confiance. Il n'a pas honte d'être appelé votre Dieu. Imaginez que Dieu dise, ah oui, je le connais, je suis son Dieu. Je suis le Dieu d'Enrico, je suis le Dieu d'Erika. Il n'a pas honte, parce que vous avez la foi. Et puis le grand test de la foi, parce que la foi c'est une épreuve, c'est une réponse positive à une révélation divine, mais elle est toujours testée. Parce qu'on peut dire qu'on a la foi, mais la foi on la voit dans notre façon de vivre et de réagir. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses, et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Il pensait que Dieu était capable même de ressusciter les morts. Ça ne s'était jamais passé auparavant, mais il avait la foi, il croyait dans la promesse. Dieu vient lui demander un sacrifice humain, ce qui était la caractéristique de toutes les religions païennes de l'époque. Et il pensait, Abraham, qu'il avait trouvé un autre Dieu, un Dieu qui avait changé de méthode. Et là, ce Dieu lui demande de tuer son propre fils, de l'offrir en sacrifice. On peut penser qu'il a dû dire, mais en fait, tu ne vaux pas mieux que ces dieux païens, tu es cruel, tu es sanguinaire. Ce n'est pas dit, mais on peut imaginer, il aurait eu le droit de le penser. D'autant que ce fils, c'était le canal, c'était le chemin pour arriver à la multitude. Si on tuait son descendant, comment aurait-il pu penser avoir vraiment une multitude de descendants? Alors là, on voit la foi. La foi, elle fait confiance avant toute chose et elle va au-delà de la logique. Il se disait, ça colle pas ça. Si je tue mon fils, il ne va pas avoir d'enfant, il ne va pas y avoir Jacob, d'Ésaü. Comment c'est possible? Je crois Dieu, la seule solution pour lui, c'est de ressusciter mon fils. Et donc il avait ça avait calmé ses inquiétudes, ses problèmes, et il a été capable de faire le test de la foi. Et Dieu a retenu sa main et lui a dit, non, je ne suis pas un Dieu sanguinaire, je voulais juste te montrer, parce que Dieu connaissait son cœur, te montrer à toi la foi que tu avais en moi. L'obéissance, la preuve de la foi, c'est une obéissance qui fait mal. C'est une obéissance sacrificielle. C'est pas de dire oui, je te crois pour que tu arranges tout dans ma vie pour que je sois jamais malade, que je sois riche. Non, je suis prêt à te donner ma vie. Fais-en ce que tu veux. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et on sait qu'Abraham, un de ses points faibles, c'était sa famille. Et Dieu l'a testé là où ça faisait mal. Et on dit qu'en fait, la foi a inventé la résurrection. Si Dieu vous semble vous conduire loin de la réalisation d'une de ses promesses, n'essayez pas de le corriger. Dieu a un meilleur plan que les plans que vous pourriez échafauder. Pour vous, dites-vous bien, l'obéissance est plus importante que la réalisation de la promesse. Mon espoir, c'était que, en venant ici, je contribue à l'avancée de l'Évangile en France. Et pour l'instant, c'est peu de choses. Mais ce qui importe, ce n'est pas que je vois la réalisation de la promesse, qu'un jour il puisse y avoir un réveil chrétien en France, c'est que moi j'obéisse à ce qu'il m'a demandé de faire. Il en est de même pour vous. Vous pouvez avoir des promesses de grandes choses, mais ce qu'il vous demande, c'est de marcher avec lui. Et bien sûr, toujours cette préfiguration de choses, le Père qui a donné son Fils, c'est bien sûr Dieu qui a donné son Fils unique, qui est mort sur la croix, qui est mort en sacrifice, qui a eu, en cela, Dieu a été sanguinaire, mais ça a été le seul sang, c'est le sang de Dieu lui-même qui a été versé. Alors encore une fois, Abraham, c'était un homme de foi, c'était pas... Sa foi n'était pas parfaite. Vous dites, mais moi, j'ai plein de défauts de foi. Il a eu des fois plus confiance en ses ressources ou ses plans qu'en Dieu lui-même. Il est parti en Égypte à cause d'une famine en Palestine. Il a dit que sa femme était sa sœur pour qu'on ne le tue pas. Il a essayé avec Sarah d'aider Dieu à avoir un descendant, en causant le problème, en étant à l'origine de la division des hommes de la foi entre les Arabes et les Juifs. Ce qui compte, c'est ce que disait ce père, « Seigneur, je crois, mais augmente ma foi. » Nous sommes tous de faibles hommes, mais ce qui compte, c'est d'avoir une petite foi en un grand Dieu. Amen. Prions. Seigneur, merci pour cet exemple qui peut nous parler, qui peut nous interpeller, Seigneur, qui doit nous interpeller. Sans la foi, il est impossible de te plaire. Et Seigneur, je ne sais pas ce que tu es en train de dire dans le cœur de chacun. Peut-être que tu parles très fort en ce moment à quelques personnes. Tu leur avais déjà parlé de faire des choses qu'ils n'osent pas faire. Seigneur, que l'exemple d'Abraham les aide à faire le pas, pas de façon présomptueuse, mais de façon d'obéissance. Une obéissance qui peut sembler être un sacrifice, mais qui, au bout du compte, se révèle être la vraie bénédiction, Seigneur. Parle à chacun, Seigneur. Tu connais les situations, peut-être des situations de péché, de relations, de projets d'enrichissement, des choses comme ça, Seigneur. Tu peux interpeller, tu peux reprendre, tu peux demander de détourner de certaines choses, Seigneur. Et lorsque tu nous demandes, tu nous rends capables, Seigneur, de te répondre par la positive. Sois béni. Sois glorifié dans nos vies, Seigneur. Nous prions ces choses par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.